Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, vivantes et vivants, amants et amantes de la vie et du bouton en devenir. Bonjour et bienvenue dans l'Onde Curieuse. Vous écoutez le magazine de la rédaction et vous avez bien raison. Nous allons parler aujourd'hui de la 5e édition des Rencontres du Vivant, intitulée « Positif pour la biodiversité », organisée ce week-end à Saint-Paul-le-Jeune, dans le sud du département. Une édition polie et impolie pour célébrer la richesse du vivant. Polie, pluriel, j'entends, puisqu'elle est polie activité et qu'elle accueille spectacles, conférences, ateliers, sorties. Polie, presque polie amoureuse, puisque dans un même programme, elle entrelace et organise des rencontres inopinées entre les odonates, libellules et demoiselles, et les cétoines, par exemple, avec le découvreur de la cétoine bleue et coordinateur de l'œuvre monumentale Les Insectes du Monde, Henri-Pierre Haberlin, qui sera là pour vous emmener sur leurs traces. Polyamoureuse par nature, puisque sur notre territoire et dans le programme, le schiste se mêle au grès et au calcaire, qui flirte avec le milieu forestier, qui s'acoquine lui-même avec les espaces ouverts de prairies. Bref, une édition polie, mais aussi impolie, puisque à l'heure du catastrophisme ou du solutionnisme, vous proposez d'autres voies. Impoli aussi parce que, après le vote de dimanche qui donne du pouvoir à un parti qui s'assoit violemment sur toutes ces questions et les traite comme au mieux inessentielles, vous ressortez et déposez sur la table les restes de la veille qui continuent de s'accumuler et vous remettez au centre quelques notions fondamentales, les rencontres, le vivant, la diversité. Merci à tous et à toutes d'être là sur le plateau, un plateau vivant et très divers. Donc Jean-François Holthoff, président de l'association Paillolive, qui co-organise cet événement. Bonjour Jean-François.
Bonjour, bonjour.
Cassie Texier, présidente de Réserve de Nature. Bonjour Cassie.
Bonjour.
Ève-Marie Batina, volontaire en service civique. Bonjour Ève-Marie.
Bonjour.
Et Firmin Chapelet, volontaire lui aussi, en service civique. Bonjour Firmin.
Bonjour.
Et puis avec nous, comme toute cette semaine aussi, Romane autour de la table. Salut Romane.
Salut.
Et Sylvain, toute la vie, toute la semaine, tous les mois, toute l'année.
Toujours derrière la vitre.
Bonjour. Toujours derrière la vitre, ouais. Salut Sylvain, merci. Donc ça c'est dans un instant, mais tout de suite on passe à l'agenda. Un agenda, lui aussi, tout en diversité du vivant. On commence par un autre grand événement. Le parc naturel régional des Monts d'Ardèche fête les 10 ans du géoparc UNESCO. Alors Romane, parle-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que ce label UNESCO ?
Donc c'est un label, comme tu viens de le dire, décerné par l'UNESCO, que le parc des Monts d'Ardèche détient depuis 2014 et doit être renouvelé tous les 4 ans. Et en France, il y a seulement 9 géoparcs, donc c'est un label très rare.
C'est un label très rare. Et à quoi ça sert ce label ?
Alors il a de nombreuses fonctions. Tout d'abord, il permet de mettre en lumière les 61 géosites des Monts d'Ardèche. Donc c'est des sites qui vont permettre des recherches paléontologiques. Par exemple, nous avons trouvé plus de 1500 traces de pas de vertébrés, ce qui est très rare.
Quand tu parles de vertébrés, c'est-à-dire des millions d'années.
Oui, bien sûr, des décennies.
Des décennies de millions, oui.
Exactement. Il permet également la protection des sites naturels, ainsi que le financement, la diffusion de la connaissance. Donc c'est des atouts considérables pour le territoire.
Et oui, toujours important d'avoir des financements pour pouvoir justement promouvoir tout ça et continuer l'exploration et continuer l'étude. Les études sur notamment les sols géologiques.
Exactement. Grâce à des jeux de pistes, on peut aussi préserver les volcans et avoir une meilleure connaissance. Et enfin, il y a le projet Terre Création et Territoire. Donc c'est l'utilisation des roches et des autres éléments de la nature par des artistes du territoire.
L'appropriation, tu dis ?
Oui, et l'utilisation. Comme ça, c'est un gain économique et il y a moins de pollution et de surconsommation.
Oui, il y a une formation qui avait été donnée, effectivement il y en a régulièrement de la part du Parc Naturel Régional à destination des artistes pour justement connaître que les artistes, notamment les céramistes, connaissent mieux les différentes roches et les différentes terres dont ils vont se servir. Et puis ça permet aussi, comme tu le dis, et comme le dit Valérie Ferula, qui est une céramiste qui s'est formée avec le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, et qu'on peut réécouter, on vous a mis justement pour les 10 ans du parc, dans le cadre des Merveilles d'Ardèche qui passent les jeudis et les vendredis habituellement à 9h15 et 16h30. Ou est-ce l'inverse ?
9h30 et 16h15.
En tout cas, qui passe deux fois par jour les jeudis et vendredis. Et là, on vous a remis justement cet épisode samedi et dimanche à 10h et 17h. Voilà, donc vous pourrez réécouter cette merveille d'Ardèche où Valérie Ferula parle notamment de sa formation Terre Création Territoire initiée par le parc. Et puis, des 10 ans, donc ça se fête. Qu'est-ce qu'il y a au programme ?
Alors, un sacré programme. Déjà vendredi, vous êtes conviés à 21h, donc dans la maison du parc à Jaujac, pour le concert du groupe Tribrick Project. Donc c'est du jazz actuel auquel se mêlent des sonorités venues du monde entier. Et il y a une création surprise, spécialement pour l'anniversaire.
Ouais, Triptych Project, super groupe qu'on a reçu ici. Déjà, ces trois frères qui s'éclatent et qui proposent une musique assez planante et assez... Enfin, qui n'est pas que ça. Et il y a, effectivement, ils ont créé pour l'occasion un morceau. Je pense qu'il s'appelle Magma. Donc, à découvrir à 21h demain soir.
Après, samedi, il y a des ateliers poterie pour les enfants, une redécouverte du système solaire, un atelier d'art auquel vous pourrez récupérer vos créations, des balades, de la réalité virtuelle, des fouilles archéologiques et une exposition tout le long du week-end. Mais n'hésitez pas à aller sur le site.
Sur le site du Parc des Monts d'Ardèche. Donc plein de choses pour les 10 ans du Géoparc ce week-end. Diversité du vivant toujours, samedi avec la fête populaire au royaume des grenouilles, et pas que celle des bénitiers, oui des grenouilles, et du réséda de Jacquin. Ça y est, ça vous dit quelque chose ? Vous y êtes ? Non ? Ce sont les Amis de la Bourge qui organisent une journée RPC le samedi 15 juin. RPC, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est Rando Pizza Concert. Samedi, place du marché à Saint-Pierre-de-Colombier. Il vous donne rendez-vous dès 16h pour les balades thématiques, donc sur la faune, la flore, l'exploration du village aussi. Les marcheurs de toutes conditions et de tous niveaux sont les bienvenus. Et puis à 19h, c'est place à la musique sur la place de Saint-Pierre-de-Colombier avec le groupe Skrank et son reggae dub, et DJ Queer en première partie. C'est la chanson de fond de tiroir. Je ne sais pas, peut-être je prononce mal, comme souvent. Non, ça ne te dit rien, Sylvain ?
Du tout.
Bon, à découvrir à partir de 19h sur la place de Saint-Pierre-de-Colombier. Et puis, parce que ça fait partie du concept, de 16h à 22h, buvette, pizza, crêpes, salade. Puisque pour être vivant, il faut être bien nourri. Petite transition, puisqu'on parle du vivant, ça me fait penser au film basque que peut-être vous avez vu autour de la table, qui s'appelle 20 000 espèces d'abeilles. 20 000 espèces d'abeilles, c'est Coco qui a 8 ans et qui a du mal à savoir qui elle est. Une petite fille, un petit garçon, et elle passe un été dans les ruches du Pays basque. Et ça éveille sa singularité, elle éveille sa singularité au sein de femmes de sa famille qui sont elles-mêmes en proie au doute. Alors, on lui dit... L'une de ses tantes lui dit « Mais dans un monde où il existe 20 000 espèces d'abeilles différentes, il existe forcément une identité qui corresponde à toi, Coco. » C'est une transition pour vous parler de la marche des fiertés ou Gay Pride qui aura lieu ce samedi. Et à Aubenas, ça s'appelle l'Après-midi des fiertés et c'est la troisième édition ici à Aubenas. Ça promet d'être une édition freestyle puisque l'organisation de l'événement est en complète autogestion. Freestyle ne veut pas dire n'importe quoi, bien sûr, mais au contraire, peut-être source d'une grande créativité et d'une grande diversité. Ça commence à 15h sur la place du Champ de Mars, avec des stands. Vous pouvez d'ailleurs vous-même proposer tous les stands qui vous intéressent, bibliothèque, crêpe, maquillage, que sais-je. Et puis, à partir de 16h, commencera la marche dans le centre-ville. Là aussi, laissez libre cours à votre imagination pour les pancartes. Cette édition et son organisation vous appartiennent. Et puis une dernière petite info pour préserver toujours la diversité du vivant et la diversité de pensée, en tout cas on l'espère. Un collectif de citoyens se mobilise autour d'un front populaire pour que l'extrême droite ne soit pas une option, selon les termes de ce collectif, et s'organise donc pour toutes les actions à mener. Ils se réunissent ce soir à 19h30, place du Château à Aubenas. Voilà pour les infos, on va continuer en musique et puis pour se faire une petite transition, on va plonger avec Anne Labadie dans la musique, enfin dans le handpan avec le titre How Still My Love.
Still the same old story. Look right through me. Make it easy in the still of the night. In the still of the night. Ooh, how still my love. Do we know you care for me? They say you're not the one for me. Ooh, don't make it easy in the still of the night.
Anne Labadie que vous avez entendu au handpan et qui sera en concert à partir de 19h à Saint-Paul-le-Jeune dans le cadre des rencontres du vivant positives pour la biodiversité. Et c'est le sujet de cette onde curieuse, les cinquièmes rencontres du vivant avec autour de la table Jean-François Holthoff, président de l'association Paillolive qui organise, co-organise cet événement. Cassie Texier, présidente de Réserve de Nature, et puis deux volontaires en service civique, Ève-Marie et Firmin. Rebienvenue à vous. On parle donc de cette cinquième édition et vous avez choisi pour thème positif pour la biodiversité. Alors Jean-François, j'aimerais savoir pourquoi.
Alors d'abord, pour préparer ces rencontres, nous avons fait en fait un questionnaire qu'on a diffusé assez largement à tous nos amis, adhérents et aux connaissances. Et la réponse était, il y avait différents thèmes possibles, et c'était vraiment la faune et la flore qui émergeaient comme prioritaires.
La question était quel thème vous voulez pour ces rencontres?
C'est ça, oui, entre autres, il y avait la pollution, il y avait ça peut être l'air, l'eau, le sol, les réserves même, tout un panel de thèmes, et c'est vraiment faune et flore qui sont ressortis très majoritairement. Donc en même temps, nous sommes membres de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui a lancé ce slogan, si on peut dire, positif pour la nature en 2030. Ce qui veut dire en fait que quand on en parle de biodiversité, on va entendre parler par exemple de sixième crise d'extinction des espèces. Ce qui est une affirmation, c'est de la communication, mais c'est pas très scientifique. Surtout dans notre région, si vous voulez. Dans notre région, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'espèces qui aient disparu. Alors qu'en zone tropicale ou ailleurs, c'est effectivement le cas.
Oui, c'est ça. Soyons vigilants. Vous n'êtes pas en train de dire que il n'y a pas de problème, pas de difficulté, mais il faut être précis sur de quoi on parle et là où on parle.
C'est ça. Surtout pour voir que... Alors, chez nous, le problème n'est pas dans le nombre des espèces. Rien que sur Paillolive et les gras, on en a identifié plus de 5000, vous voyez. Par contre, c'est les populations. Beaucoup d'espèces ont des populations qui se réduisent à vue d'œil presque. Alors, bon, on ne sait pas. Est-ce qu'on est au bord d'une crise d'extinction ou pas? Ce qu'on peut être sûr quand même, c'est que quand on laisse à la nature la possibilité de s'exprimer, ça explose. On a pu voir que parmi certaines espèces comme les rapaces, les prédateurs, même certains poissons, dès qu'ils sont protégés, qu'on arrête de les tuer, ils reprennent leur place. Le castor, par exemple, on en a beaucoup maintenant chez nous. C'est ce que Gilbert Cochet appelle le réensauvagement. Gilbert Cochet et Béatrice sont toujours très positifs. Et effectivement, l'idée, c'est de montrer qu'il y a quand même des possibilités. D'abord, toute l'action de connaissance, de faire respecter le droit. Par exemple, récemment, à Saint-André-de-Cruzière, l'Office pour la biodiversité est intervenu contre la mairie qui détruisait des nids d'hirondelles, des nids actifs. Il y a ça. Et puis alors, tous les jardins, par exemple, on peut faire beaucoup d'efforts pour la restauration. Et ces efforts sont payants. C'est ça qu'il faut faire passer.
Qu'il faut mettre en avant. C'est ça. On va peut-être en reparler, puisque vous avez d'ailleurs une rencontre sur le réensauvagement des jardins, me semble-t-il, ou un atelier. Ce que vous voulez mettre en avant, c'est la positivité. Alors, parce que dans la positivité, c'est un terme qui est polysémique. Positivité, vous avez commencé à en parler, c'est une attitude, je le disais en introduction, c'est pas un catastrophisme, c'est pas un solutionnisme, c'est une prise en compte d'une réalité, mais en ayant aussi en tête des choses, des actions, non pas pour faire en sorte de ne pas grever l'action face au désespoir, mais de proposer quand même des possibilités d'action. J'entends ça. Et positivité, on peut aussi se dire, il y a d'autres implications à ce mot. D'ailleurs, il y a une conférence qui va en parler autour d'un concept juridique. Juridiquement, cette notion de biodiversité positive existe. C'est ça ?
Oui. Alors ça,
est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? C'est j'ai retrouvé le nom. C'est Sébastien Mabille qui va explorer à travers cette conférence qui aura lieu demain à 17h. Qu'est-ce qu'être positif pour la nature? Alors, vous n'êtes pas Sébastien Mabille, mais je vous pose tout de même la question. Qu'est-ce qu'être positif pour la nature?
Alors en fait, c'est la première fois qu'on invite un juriste dans nos conférences. Mmh. D'habitude, ce sont des naturalistes. Là, c'est un juriste parce qu'il se trouve qu'il est en même temps vice-président du comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc il est responsable un petit peu de ce concept devant ses auditeurs. Et je ne peux pas vraiment dire à l'avance ce qu'il va affirmer.
Une question qui va soulever.
Alors même une question très large, par exemple la question des droits de la nature. Il y a certains pays où on a inscrit les droits de la nature. Alors, l'ennui, c'est que ça ne sert pas toujours à grand-chose. Par contre, il y a une traduction en droit de ce concept de positivité pour la nature. Et ça sera une intervention, je pense, assez nouvelle pour nous et même dans la région. Voilà, en tout cas, c'est le début de la prise au sérieux de ce concept.
On parlait d'action. Cassie Texier, vous faites partie justement, vous êtes présidente des réserves de nature. On en a parlé déjà à ce micro il y a quelques mois de cela. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette initiative, voir un petit peu où elle en est et justement quel est son objectif ?
Alors depuis qu'on s'est vu, on a construit l'association, on a eu l'assemblée constitutive, on a déposé les statuts, on attend le retour de la préfecture. Et on met en route ce réseau de propriétaires. On va lancer un appel aux propriétaires qui veulent nous rejoindre pour agir justement pour la biodiversité. Les naturalistes pourront transmettre des conseils pour restaurer la biodiversité sur les terrains. Il faut savoir que 70% des terrains sont privés en fait. Donc en s'adressant aux propriétaires, on a un vrai levier pour agir. Voilà.
L'idée de ces réserves de nature, c'est de créer des réseaux de parcelles de parcelles en faveur de la biodiversité, c'est-à-dire de préserver quelques parcelles.
C'est-à-dire qu'on peut tous agir, on transmettra des connaissances qui permettront aux gens d'agir différemment et qui prendront plus soin de la biodiversité.
Et là, vous en êtes où dans ce...
Alors là, on en est au tout début. Samedi, on fait des ateliers pour parler, par exemple, des forêts de pins maritimes et comment elles ont pris le pas sur la forêt traditionnelle cévenole et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte. On présentera aussi un film qu'on a fait et puis une petite conférence pour expliquer notre projet. C'est quelque chose qu'on va développer, ça, de montrer ce film pour expliquer aux gens notre projet à la rentrée. Et dans l'été, on ira voir les propriétaires qui déjà nous ont rejoints pour qu'ils nous expliquent leur rapport avec leur parcelle, l'histoire, et puis que nous, on puisse transmettre un petit peu la biodiversité qui s'y trouve.
L'idée en creux, c'est vraiment celle-là, c'est comment on se réapproprie chacun et comment on agit à son niveau.
C'est ça. Et pour nous, on part du principe qu'on peut tous agir et qu'il n'y a pas de surface minimum. On peut avoir un petit jardin et agir de manière beaucoup plus favorable.
Oui, c'est le cas. D'ailleurs, il y a une conférence ou un atelier, hop là, je ne sais plus, sur le réensauvagement. J'ai perdu mes papiers.
C'est Louisa Jones.
Louisa Jones, voilà. Merci. Louisa Jones qui continue de parler de ce concept d'ensauvagement, de réensauvagement, et qui dit bien que les jardins, enfin tous les jardins, représentent bien plus que des réserves naturelles, et que donc si chacun s'occupe de réensauvager son jardin, il y a un impact beaucoup plus fort que celui des réserves naturelles.
Voilà.
Donc, chacun peut faire quelque chose.
Et on peut se rencontrer et agir ensemble.
Vous êtes tous les deux là, Ève-Marie et Firmin. Vous êtes en service civique. J'aimerais d'abord comprendre ce qui vous a motivé pour rejoindre l'association Paillolive il y a 8 mois déjà.
Alors on arrivait en octobre, donc pour un contrat de 8 mois, donc jusqu'à qui s'est terminé il y a une semaine. Et j'ai fait un BTS GPN avant, donc on l'a fait ensemble, enfin Ève-Marie aussi. Et avant de s'engager dans une vie professionnelle, on avait envie aussi un petit peu d'avoir une autre expérience au sein d'une association naturaliste, mais qui pourrait nous apporter autre chose que travailler directement. Dans l'environnement, et aussi d'apprendre plus en termes de connaissances naturalistes et de s'investir aussi dans une association, en fait.
Et pouvoir aussi se professionnaliser davantage pour notre futur.
Quand on parle, vous l'évoquiez aussi, Jean-François, vous n'avez pas prononcé ici directement le terme, mais d'éco-anxiété, comment vous réagissez ou comment vous accueillez cette éco-anxiété ?
Moi, je suis assez anxieuse du réchauffement climatique, du déclin de la biodiversité, mais j'essaye de positiver et de mener des actions à ma manière. par exemple en m'engageant au sein d'une association, en militant ou en sensibilisant toutes les personnes autour de moi. Voilà.
Mmh. Firmin.
Mais moi, pour le coup, c'est pas quelque chose qui m'a trop... que j'ai vraiment subi ou qui m'a touché, l'éco-anxiété. C'est... comme m'a dit Eve-Marie, j'essaye aussi de faire à mon échelle ce qu'il faut pour, voilà, pour la biodiversité, pour que ça puisse aller mieux. Aussi en sensibilisant mon entourage, en essayant de faire mon échelle. Mais c'est vrai qu'on voit le comportement de certains parfois, il n'y a pas de quoi forcément être toujours très optimiste pour la suite, mais on essaye quand même.
Je lisais une étude qui a été faite par le psychosociologue Jean Le Goff du Centre d'études psychosociologiques et de travaux de recherche appliquée, où il se posait la question de savoir si la peur était moins capable de mobiliser que l'espoir. Et en fait, je me suis dit, mais oui, sans doute, c'est pour ça qu'il faut être positif. Eh bien non. C'est que les deux, en tout cas, les deux pans semblent être complémentaires. Et d'autres chercheurs en viennent à la conclusion qu'il faut nier ni l'un ni l'autre. Il y a de la peur, mais il y a des choses à faire. Et ne prendre que le côté positif est une manière finalement de nier même l'existant et peut-être aussi qui flirte avec une forme de solutionnisme dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, faire des choses sans prendre la mesure complète de ce qui se passe. Alors je vous livre ces conclusions, mais qui donnent peut-être du grain à moudre, c'est-à-dire, oui, prendre les deux pans du problème, être bien conscient de ce qui se passe et ce que vous faites aussi à travers ce type d'événement, des rencontres du vivant, c'est-à-dire montrer un petit peu l'état actuel, l'état de la biodiversité ici sur notre territoire. Et je serais tenté de dire, alors vous avez commencé un peu à y répondre, Jean-François, mais quelle est-elle ? Quel est cet état de la biodiversité ? Et puis de voir les solutions qu'il y a à mener.
Donc l'état actuel de la biodiversité dans le sud de l'Ardèche, tout au moins sur le secteur dont l'association Paiolis s'occupe, comme je l'ai dit, il peut être inquiétant au niveau des populations. Hein, on voit que, par contre, au compte du nombre d'espèces, on dit on a identifié 5000 espèces sur le secteur, bon, on ne peut pas dire que c'est effondré, quoi. Donc, mais ça, c'est pas garanti que ça va durer non plus. Il peut très bien y avoir un effondrement des populations. Et quand la population, l'espèce est trop petite, elle disparaît. Hein. C'était à ce moment-là. Ça, on a quelques exemples dans d'autres régions. Alors, le problème aussi, c'est que la biodiversité est invisible à nos yeux. La majeure partie de la biodiversité. Hein, les entomologistes, botanistes vont vous le dire. Donc, en fait, c'est un des enjeux aussi d'une des interventions. Comment mesurer aussi bien la chute que la restauration de la biodiversité ? Parce que, alors, quand on essaye, par exemple, de mettre un piège à insectes, on va trouver des tas d'insectes qui sortent d'on ne sait où, hein, et dont on n'avait pas soupçonné la présence. Hein, mais ils étaient là. Mmh. Et même s'il y a, par exemple, quelques années de sécheresse ou de difficultés, ils peuvent reparaître. Mais il ne faut pas, évidemment, continuer d'avoir plusieurs années très négatives comme ça pour eux.
Mmh. Oui, c'est important, et c'est donc aussi ce que je disais, l'utilité de ces rencontres du vivant, c'est d'avoir des sorties pour justement... regarder ce qu'on ne voit pas habituellement. Il y a des sorties avec des entomologistes, donc je parlais de la cétoine bleue qui a mis en lumière cette cétoine ici dans une boîte paille-olive, mais aussi d'autres sorties insectes, donc pour essayer de voir un petit peu ce qu'il y a. Et puis vous parliez de quelque chose d'intéressant, c'est comment on évalue la diversité. Donc là, c'est un autre atelier, c'est ça, qui sera...
Oui, c'est Patrick Blandin qui le mènera. Mm-hmm. Patrick Blandin, c'est quelqu'un qui a écrit un livre récemment aussi dans cette idée de donner congé pour un temps à tous les pessimismes catastrophistes qui alimentent une sorte de délectation morose un peu, je ne sais pas, parfois. Donc voilà. Et Patrick Blandin, donc, c'est un ancien professeur du muséum, Donc il est capable de dire un petit peu, de donner un avis autorisé sur qu'est-ce qu'on peut mesurer ou pas. Et en fait, c'est très modeste ce qu'on peut mesurer.
Muséum d'histoire naturelle de Paris. Effectivement, ces rencontres du vivant ne sont pas du tout moroses. Il y a des spectacles, il y a des sorties, il y a des rencontres, de la musique. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la programmation, de la diversité de la programmation. Jean-François et toutes celles et ceux qui sont autour de cette table, comment on organise une telle richesse dans cette programmation?
Ben déjà, on a fait pas mal de réunions. Et puis après, on a essayé de trouver des acteurs locaux, de préférence, ou en tout cas qui pouvaient apporter quelque chose. Déjà, il fallait choisir le thème. Et une fois que le thème a été retenu, trouver les différents acteurs qui pouvaient enrichir cette programmation.
En fait, on a commencé très tôt, au mois de septembre dernier. Et alors, il faut aussi signaler qu'il faut d'abord trouver un lieu. Et donc là, c'est la commune de Saint-Paul-le-Jeune, avec l'association Utopia qui nous accueille. Et donc c'est déjà une étape très importante d'avoir une commune, un lieu. Et là, le lieu est à la fois dans la nature et dans le village. C'est idéal.
C'est la médiathèque de André Braïc de Saint-Paul-le-Jeune.
Voilà, et autour.
Et autour. On a entendu tout à l'heure de la musique, donc c'est important aussi d'avoir ces temps festifs et conviviaux. Vous pouvez nous dire un mot, Cassie, de justement cette programmation de spectacle musique?
Oui, on aura Anne Labadie avec son Anne Pan, et on aura aussi le Poil de la Bête, qui est un groupe de Saint-André de Cruzières, qui viendra le samedi soir. Et samedi soir, après le concert, il y aura un spectacle. La compagnie...
L'Étoile de mer.
L'Étoile de mer.
Qui est un spectacle...
De danse, en fait. Danse aérienne, dans un arbre, notamment. En fait, l'acteur était déjà venu il y a 10 ans pour les premières rencontres du vivant. Et ça avait été très apprécié.
Et ça, ce sera...
À côté de la médiathèque.
Samedi à 20h30. Il y aura aussi des ateliers... et notamment des ateliers à destination des plus jeunes. Et Firmin et Ève-Marie, vous avez organisé ces ateliers? Vous allez mener ces ateliers?
Oui, c'est ça, on va mener ces ateliers, parce que du coup, pendant notre service civique, on a eu l'opportunité d'instaurer un partenariat avec l'école du péage à La Blachère, où les enfants avaient une aire éducative terrestre, donc un coin nature où on pouvait faire école dans la nature. Et donc de là a découlé du coup des ateliers que l'on va faire avec les enfants et les autres enfants aussi. Tous les enfants sont les bienvenus, quoi.
Quand vous parlez d'école dans la nature, est-ce que c'est le principe école dehors?
Oui. Oui, c'est ça, école dehors.
École dehors, ce que porte aussi, je rebondis sur les 10 ans du Géoparc, qui ont accompagné 8 écoles dehors et qui essaient aussi de favoriser cette initiative, c'est-à-dire de faire à la fois des maths, du français, à partir de ce que nous propose la nature, c'est-à-dire faire des mathématiques ou de la géométrie pour les plus jeunes avec des feuilles d'arbres, par exemple. Firmin, sur ces ateliers?
Mais justement, les institutrices de l'école du péage de La Blachère, justement, auront aussi un atelier avec une sorte de petite table ronde avec débat sur le thème de l'école dehors, en quoi c'est bénéfique pour les enfants, qu'est-ce que ça peut développer, en plus d'une école, entre guillemets, classique. Donc voilà. Et aussi, donc c'est ça, on aura différents, donc samedi et dimanche, des ateliers pour les plus jeunes. Voilà, pour occuper les enfants pendant que les parents seront en conférence
ou en balade nature, à la découverte des insectes nocturnes et des chauves-souris, par exemple. Ça, ce sera vendredi soir à 21h. On a parlé aussi des libellules, des odonates. Ce sera le dimanche. Sortie entomologique avec Henri-Pierre Aberlinck, voilà, pour la cétoine bleue. Il y aura beaucoup, beaucoup d'autres choses. Je vous invite à consulter le programme qui est disponible
Sur la page Facebook, sur notre Instagram, un peu partout.
Puisque vous avez, je crois, nourri, alimenté les réseaux sociaux.
Oui, c'est ça. On a créé une page, Les Rencontres du Vivant, où chaque jour, on nourrit la page avec tous les événements de ce week-end, du coup.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, ces 8 mois? Parce que j'ai entendu, vous avez dit, normalement, le service civique était fini, là, depuis une semaine. Mais vous êtes encore là. Et vous serez là ce week-end.
Voilà.
Alors, vous prolongez, c'est plutôt un bon signe, c'est plutôt positif pour la biodiversité.
On a commencé en octobre le service civique. Donc, pour les rencontres du vivant, on s'est investi depuis environ janvier-février. Donc c'était super riche parce qu'en plus de toutes nos missions de suivi d'espèces, gestion, animation, on a pu en parallèle créer des supports de communication, affiches. Alimenter les réseaux sociaux, faire de la communication. Et donc, on s'est investi sur plusieurs mois, donc c'est vrai que c'est important pour nous aussi d'être présents jusqu'au bout et de faire vivre aussi ce week-end le déroulement. Voilà.
Mmh. Eve-Marie ?
Il a tout dit, c'est exactement ce que je pense. Voilà.
merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se quitte ?
C'est Firmin qui a fait l'affiche qui est très belle, qui est demande, qu'on va même vendre, parce qu'il en reste, parce qu'elle est très belle.
Les Rencontres du Vivant, effectivement, très belle affiche qui est aussi sur
la radio, pas le montrer
sur le Facebook. Mais si, la radio le montre, puisque la radio a également un Facebook et il y a un post qui est parti il y a quelques minutes il y a plus d'une demi-heure de ça, avec justement cette belle affiche où on voit donc les rencontres du vivant, positif pour la biodiversité, c'est la 5e édition, puisque on n'a pas dit, mais les rencontres du vivant, ça se fait tous les 2 ans, parce que c'est une grosse préparation, et ce sera le 14, 15 et 16 juin à Saint-Paul-le-Jeune, à la médiathèque André Braic et autour, et donc vous trouverez des conférences, des sorties, des spectacles, des ateliers. Vous avez donc toutes les infos sur le Facebook de l'association Paillolive. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci Romane de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci Sylvain pour la réalisation. Nous, on se retrouve lundi prochain pour une prochaine Onde Curieuse. Et puis vendredi, c'est le moment du cinéma, donc ce sera Cinémascope. Merci beaucoup, bon appétit ou bonne journée. Ciao.